Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Au 7 octobre, l'épître est tiré du livre de la Sagesse. Le Seigneur m'a eu pour sa possession au commencement de ses voies, avant d'avoir rien créé encore dès le principe. J'ai été décrété de toute éternité et dès l'origine avant la création de la terre. Les abîmes n'étaient pas encore que déjà j'étais conçu. Écoutez-moi donc maintenant, ô mes fils, bienheureux ceux qui gardent mes voies, écoutez pour apprendre la sagesse et devenir sage vous-même, et gardez-vous de la rejeter. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour devant ses portes, qui tient les yeux fixés sur les montants de ma porte, qui me trouvera la vie, goûtera le salut que donne le Seigneur. Pour l'évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une cité de Galilée, portant le nom Nazareth, à une vierge qui était mariée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange étant donc présenté devant elle, lui dit : « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. » Elle, après l'avoir entendu, se troubla à ses paroles et elle se demandait ce que voulait dire cette salutation. Alors l'ange lui dit : « Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous allez concevoir et mettre au monde un fils et vous l'appellerez du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le fils du Dieu Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » Et l'ange répondit, lui dit : « L'Esprit Saint se viendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Aussi, l'être saint qui naîtra de vous sera-t-il appelé le Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, ce mois, et le sixième de celle qu'on appelle stérile. Car avec Dieu, il n'est d'impossibilité pour aucune parole. » Et Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon votre parole. » Veuillez vous asseoir. Excusez-moi, j'ai oublié un papier. Quelques annonces d'abord. Attention, nous aurons donc ce mercredi le cours sur les actes du magistère. Je me permets d'insister sur ce cours pour aider à comprendre les grandes encycliques pontificales, donc le magistère de l'Église, une partie très importante, évidemment, de la sanctification. Je n'ai pas les trois moyens de sanctification habituels : le magistère, l'enseignement, la sanctification par la prière, les sacrements et la pénitence, et le gouvernement. Donc essayez, si vous ne pouvez pas venir au cours, le cours a lieu ici à 8h, donc tous les mercredis quand je suis là, de 8h à 9h30. Je le mets sur Internet, il est en audio et en vidéo, comme ça vous pouvez le suivre plus facilement. Donc si vous ne pouvez pas venir au cours ici, ceux qui habitent loin, c'est pratiquement impossible, essayez au moins d'écouter ce cours pour travailler, c'est important de travailler pour pouvoir bien connaître sa foi. J'ai également publié hier donc le calendrier des retraites pour 2023, puisque nous avons terminé cette semaine dernière la dernière retraite de l'année. Donc vous avez les papiers à l'entrée de la chapelle dans le petit panier là. Donc vous avez le calendrier des 6 retraites pour 2023. Encore une fois, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Bon, je ne veux pas dire que ces retraites sont réservées à la paroissien ici, mais d'abord les paroissiens, c'est un peu normal. Donc, comme je ne peux prendre que 6 personnes par retraite, donc n'attendez pas pour vous inscrire. J'ai une première inscription et cette semaine, je sais que je vais en recevoir entre 10 et 15. Donc, attention à ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire. Nous aurons le dernier repas, en principe, dimanche prochain, le 16 octobre, si Dieu nous donne une météo à peu près clémente. Et ensuite, je pense qu'on arrêtera pour l'hiver à cause du froid. Donc, priez pour que nous puissions organiser rapidement, avec la grâce du bon Dieu, une autre chapelle plus grande, à peu près un quart d'heure d'ici. On vous tiendra au courant dès qu'on aura plus de nouvelles là-dessus. Je recommande aussi à vos prières un jeune non-catholique qui a fait la retraite la semaine dernière et qui sera baptisé donc, le 30 octobre, dimanche 5 octobre, dans une petite chapelle près de Cahors, chez M. et Mme Garcia, où je dis la messe tous les derniers dimanches du mois. Donc le même jour, il recevra le baptême, fera sa première communion, et ce sera aussi le jour de son mariage. Donc il fera tout le même jour. Alors, de toute façon, il faut que j'aille à la pêche de mes notes de sermon, que j'ai oublié de sortir. J'espère qu'elles sont là. J'ai toujours des notes de sermon parce qu'il m'est arrivé deux, trois fois d'avoir des trous de mémoire complets. Et avec la vieillesse, ça s'arrange pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, mes chers frères, mes bien chers amis, on dit que le démon a deux ennemis principaux, le bon Dieu et la Sainte Vierge. On dit aussi que celui qui craint le plus des deux, c'est le deuxième, très Sainte Vierge Marie. Ça semble étonnant de dire des choses pareilles. Et vous allez comprendre la raison. La raison, c'est que Dieu est l'auteur des grâces. C'est Dieu qui fabrique littéralement la grâce. La grâce est quelque chose de créé. Donc c'est Dieu qui fabrique les grâces, mais il a confié l'application des grâces à sa mère. Puisque la mère est médiatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule grâce qui passe, qui nous est donnée par Dieu, sans passer par sa mère. En quelque sorte, Dieu place dans un coffre toutes les grâces pour toute l'humanité. Et celle qui a la clé du coffre, c'est la Troisième Vierge Marie. C'est elle qui ouvre le coffre, prend la grâce à l'intérieur et distribue selon sa volonté. Puisque Dieu a voulu donner à la Troisième Vierge Marie non seulement le titre de médiatrice de toutes les grâces, mais comme elle est co-rédemptrice du genre humain, c'est elle qui va littéralement choisir à qui les grâces vont être données. Donc je vous conseille beaucoup d'avoir la Sainte Vierge dans votre poche. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et évidemment, le démon qui sait très bien que tant que les grâces sont enfermées dans le coffre-fort, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Il craint énormément la très Sainte Vierge Marie parce que c'est elle qui a accès à ces grâces. Alors comment ces grâces arrivent-elles sur la terre? Elles peuvent arriver directement, passant par la Sainte Vierge encore une fois. En général, le moyen habituel pour les grâces de venir sur la terre, c'est par l'autel, par la Sainte Messe. Par la Sainte Messe, Dieu remplit en quelque sorte le tabernacle de ses grâces. Puis la très Sainte Vierge Marie intervient pour que justement nous puissions obtenir ces grâces. D'où l'importance du rosaire. Vous savez que le rosaire a été donné à l'humanité par la très Sainte Vierge Marie, tout proche d'ici. À l'église Notre-Dame de la Drèche. Pour ceux qui ne connaissent pas la Drèche, quand vous arrivez sur Albi, juste au-dessus de la ville d'Albi, quand on prend la longue descente qui descend sur Albi, depuis le plateau ici, on voit sur la droite, en fait juste en face à un moment, on voit cette église Notre-Dame de la Drèche, qui est une église du XIIe siècle, qui a été construite à la suite d'un miracle. La Sainte Vierge Marie a donné une statue miraculeuse qui est apparue à deux enfants. Et c'est dans cette église que la Très Sainte Vierge Marie a donné le rosaire à Saint Dominique. Donc je vous conseille beaucoup, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller prier dans cette église, qui est une église moderne, je vous précise tout de suite, mais qui a encore gardé un certain esprit de prière, je dirais. Et au-dessus de l'autel, vous avez cette statue originale du XIIe siècle. Alors, il faut vraiment bien comprendre ces choses-là, parce que le rosaire, eh bien, chers frères, représente une espèce de résumé, de synthèse de toute la vie spirituelle. La vie spirituelle, ce qu'on appelle le combat spirituel. La vie spirituelle n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. C'est un combat constant. pour pouvoir passer de la partie purgative, c'est-à-dire la partie de purification, recevoir les lumières du Saint-Esprit, qu'on appelle la vie illuminative, et passer à la vie unitive. Et donc, ces trois parties de la vie spirituelle, ces trois étapes de la vie spirituelle, sont parfaitement représentées dans le rosaire. Parce que les mystères joyeux sont à la vie purgative, ce que les mystères douloureux sont à la vie illuminative, et les mystères glorieux à la vie unitive. Et attention, on ne va pas directement à la vie unitive, on ne peut pas s'unir directement à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a des petits malins qui veulent prendre des raccourcis, et qui se disent, la vie douloureuse, merci, ce n'est pas pour moi. La vie purgative, merci, ce n'est pas pour moi non plus. Par contre, la joie du paradis, ça me plaît. Alors je prends un raccourci et je monte directement à la vie glorieuse. Pas possible. Et si vous faites ça, vous trouverez la porte du paradis fermée. Donc il faut passer par la purification, la vie purgative, puis ensuite monter à la vie illuminative pour recevoir les lumières du Saint-Esprit qu'on ne peut recevoir qu'une fois que notre âme a été purifiée, notamment par la confession, afin d'atteindre la vie unitive, la vie glorieuse, ou la vie mystique. Et ça, il faut bien, bien comprendre ces choses-là, parce que il y a une espèce d'équation. On peut expliquer comme ça. Vie purgative plus vie illuminative égale vie glorieuse, vie unitive. Donc, mystère joyeux plus mystère douloureux égale mystère glorieux. Et si vous éliminez les deux premières étapes, vous ne pouvez pas atteindre la troisième étape, c'est impossible. Et le monde moderne, c'est ça. Souvent, les gens me demandent quelle est la différence essentielle entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique traditionnelle. La différence, elle est là, mes bien chers frères. On peut dire l'Église catholique, l'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique moins la croix. Et comme la croix nous est donnée par la messe n'étant rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, donc la tentation du monde moderne, et c'est très net dans l'Église moderne, c'est justement de supprimer la croix. Parce qu'ils veulent aller directement en vie glorieuse, en vie unitive, ils ne veulent pas passer par la vie de la pénitence. Pour cela que l'Église catholique a toujours défini la Sainte Messe comme étant le renouvellement non sanglant des sacrifices de la croix. Mais dans l'Église moderne, quand vous voyez justement la définition de la Nouvelle Messe donnée par Paul VI lui-même en 1969, la partie sacrificielle propitiatoire de la Messe a complètement sauté. Il y a une raison très simple pour ça. La Nouvelle Messe de 1969 est arrivé pour plaire aux protestants. C'est une messe écuménique. Or, les protestants n'acceptent pas, dans leur fausse théologie, n'acceptent pas la fin propitiatoire de la messe. Ils acceptent la fin eucharistique de la messe, la fin latrutique, la fin, donc toutes les fins nécessaires pour obtenir certaines grâces, pour remercier le bon Dieu, et pour demander certaines grâces, mais ils refusent catégoriquement la fin propitiatoire de la messe. N'oubliez pas que dans la préparation à la Nouvelle Messe en 1969, vous avez plusieurs pasteurs protestants qui ont participé, notamment du village protestant de Thésée. Et donc, il fallait absolument faire une messe qui soit acceptable par les protestants. Pour qu'une messe soit acceptable par les protestants, il fallait faire sauter évidemment la fin propitiatoire de la messe. Et on le voit très bien aujourd'hui. Dans l'Église moderne, ça arrive régulièrement qu'il y ait des concélébrations entre protestants et catholiques. Jamais, jamais, les pasteurs protestants ont demandé de faire une concélébration avec un prêtre catholique, avec la messe traditionnelle. D'abord, on refuserait net. Et ensuite, ils savent que ce n'est pas possible. Parce que justement, dans la messe catholique traditionnelle, la messe catholique de toujours, tout est centré sur la croix. Et donc, il faut achever, c'est ce que nous dit Saint Paul, achever ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la meilleure façon d'achever ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est précisément la messe. Pourquoi la messe est tellement importante? Et on voit très bien, quand on étudie un petit peu l'histoire de cette liturgie, de la liturgie catholique, et l'histoire de la contre-liturgie en quelque sorte, on voit très bien comment petit à petit, ils ont amené cette nouvelle idée que la messe n'est plus un sacrifice, mais simplement un repas partagé littéralement. Comment ils sont pris? Ils sont pris par étapes, il faut bien comprendre ça. D'où l'importance de la dévotion à la Sainte Vierge Marie qui va vous aider à comprendre ces choses-là. Ça a commencé évidemment avec le Concile pour changer les mentalités. Concile Vatican II, c'est 62-65. Changement de mentalité, surtout sur le point essentiel du Concile, à savoir l'acceptation de la liberté de conscience qui avait pourtant été condamnée par l'Église de façon infaillible par le pape Pie IX en 1864, sous forme, par l'encyclique Quanta Cura, qui dit expressément la liberté de conscience, une liberté de perdition et une insanité. Texte infaillible. Tout Vatican II, quand on étudie les textes de Vatican II, on voit que tous les textes de Vatican II amènent au texte final. Il en fait passer juste à la fin, en décembre 1965, le décret sur la liberté religieuse, dans lequel il est dit expressément la liberté de conscience est un droit fondamental qui doit être reconnu même par l'État pour tous les hommes. Vous pouvez tourner la phrase dans tous les sens, cela dit expressément, noir sur blanc, le contraire de ce qu'a enseigné l'Église catholique pendant 20 siècles. Or, quand on fait le contraire d'un texte infaillible, on tombe immédiatement dans l'hérésie, évidemment. Donc ça, c'est 62-65. Changer les mentalités, c'est-à-dire faire accepter l'idée de la liberté religieuse, de la liberté de conscience. Ce n'est rien d'autre que l'application du mensonge qui avait très bien marché avec Adam et Ève. Vous deviendrez comme des dieux. Et parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Dans l'Église catholique, ce n'est pas nous qui décidons ce qui est bien et ce qui est mal. C'est Dieu qui le fait pour nous. C'est la loi des 10 commandements. Ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas faire. Avec la liberté de conscience, le démon a mis dans la tête d'Adam et Ève, si vous mangez le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez décider par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça la liberté de conscience. C'est pour ça que l'Église catholique a toujours condamné la liberté de conscience et la condamne toujours et de façon infaillible. Le Concile Vatican II a changé ça pour introduire dans les esprits l'idée que c'est chacun d'entre nous qui décide par lui-même ce qui est bien et mal. Liberté de conscience. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, 1968. Le démon a compris qu'il faut supprimer la messe. Il faut supprimer la Sainte Eucharistie. Il faut supprimer le sacerdoce, puisque ces trois choses sont unies. C'est comme, si vous voulez, la perle la plus précieuse de l'Église catholique, c'est la Sainte Eucharistie. Elle est entourée dans deux écrins. Premier écrin, c'est la Sainte Messe. Deuxième écrin, c'est le sacerdoce. Donc, le démon sait qu'il ne peut pas attaquer directement la Sainte Eucharistie. Donc, il va attaquer le sacerdoce et la messe. Le démon sait, il connaît très bien cette théologie, bien mieux que vous et moi. Le démon sait que la Très Sainte Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces, mais qu'elle ne fait pas les grâces. Donc, il faut supprimer l'arrivée des grâces. Comment on supprime l'arrivée des grâces? En coupant le robinet. Les grâces viennent par la messe, supprimons la messe. Et ça, c'est 68, modification substantielle du rituel de consécration des prêtres et d'ordination des prêtres, du sacerdoce, et de consécration des évêques. Doute énorme. Quand vous rajoutez deux doutes énormes comme cela, pratiquement on en arrive, hélas, à la quasi-certitude que le nouveau rituel de consécration des prêtres, d'ordination des prêtres, surtout quand c'est effectué par un évêque qui a lui-même été consacré avec une nouveau rite, pratiquement invalide. Ce qui explique la catastrophe au niveau des âmes aujourd'hui, parce que s'il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de sacerdoce. S'il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus de messe. S'il n'y a plus de messe, il n'y a plus d'accès directement au sacrement. Et la Très Sainte Vierge Marie ne peut pas prendre des grâces dans un tabernacle qui est vide. Ça, c'est 68. Troisième étape, 69. Modification substantielle de la messe. La messe devient littéralement un simple repas. Et ils ont encore enfoncé le clou le plus profond, c'est le clou de 1983, nouveau code de droit canonique. Faire sauter le code de droit canonique préparé par le pape Saint-Pilice pour introduire un nouveau code de droit canonique afin d'introduire surtout l'hospitalité eucharistique, c'est-à-dire l'écuménisme, avec tous les succès d'années et toutes les conséquences de l'écuménisme moderne. Ce sera la collégialité, la liberté de conscience, donc l'introduction des trois principes de liberté, d'égalité et de fraternité dans l'Église. C'est la démocratisation de l'Église catholique qui ne dépend plus de Dieu mais des hommes. L'autorité vient plus de Dieu, vient des hommes. C'est le nombre qui fait la vérité. On a plein de démocratie. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Je sais que beaucoup de nos fidèles ont un petit peu de mal. Donc la tentation, elle est là. La tentation, elle est justement de supprimer, si vous voulez, l'accès au ciel par la voie de pénitence. N'oubliez pas qu'il n'y a que deux chemins pour aller au ciel. Il n'y en a pas trois. Chemin d'innocence, chemin de pénitence. Chemin d'innocence n'est ouverte qu'à une seule catégorie de personnes, ceux qui n'ont jamais péché. Parce qu'il y en a parmi vous, oui, il y en a un, Joseph. Joseph, il a le droit d'utiliser la voie d'innocence, parce qu'il n'a même pas un an, il n'a pas encore péché. Et vous tous, moi aussi, nous avons péché. Donc la voie de pénitence, la voie d'innocence, nous est définitivement fermée. Les seules personnes qui peuvent utiliser la voie d'innocence sont ceux qui n'ont jamais péché. Dans la pratique, ce sont les bébés qui meurent juste après le baptême. Eux, ils ont la voie d'innocence. Dès qu'on a commis le moindre péché, tout de suite, la voie d'innocence nous est définitivement fermée. Il faut passer par la voie de pénitence. Vous voyez, et ça, le démon le comprend très bien. C'est pour ça qu'il nous pousse de plus en plus à ne plus faire pénitence. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé de main morte avec la pénitence. Qu'est-ce qu'il a dit ? Si vous ne faites pas pénitence, nous a-t-il dit, vous périrez tous. C'est vrai pour moi aussi. Il n'a pas dit, la pénitence, quelque chose de facultatif, ça sera plus facile d'aller au ciel avec la pénitence. Non, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Et puis il a rajouté, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire sans moi, vous aurez un peu plus de mal pour aller au paradis. Ça veut dire sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous amener sur la voie qui mène à l'entrée du paradis, la voie glorieuse, la voie mystique, qu'on appelle la voie initiative, sans passer justement par ce travail de préparation, à savoir le travail de préparation de la voie purgative et de la voie initiative. Vous savez, ces idées, contrairement à ce qu'on croit, ces idées de supprimer la pénitence, sont vieilles comme le monde. C'est le pape Léon XIII, par exemple, en 1899, qui a dû remettre les pendules à l'heure déjà là-dessus. Avec les Américains qui déjà disaient en 1899, ces Américains, les évêques américains d'origine irlandaise en général, disaient presque tous qu'on n'a plus besoin des vertus passives. Et que maintenant, on vit dans un siècle nouveau, qu'il faut aller aux vertus actives. Les vertus passives ne sont pas nécessaires. C'est quoi les vertus passives ? C'est l'humilité, l'obéissance et toutes ces vertus-là qui sont le socle des vertus actives. Vous supprimez l'humilité, il n'y a plus de vertus actives. Et donc le pape Léon XIII, justement, a publié une encyclique magnifique qui s'appelle Testem Benevolentiae, 1899, pour condamner ce qu'il a appelé l'américanisme. Et dans le cours que je prépare sur les actes du magistère, pour pouvoir comprendre les actes du pape Pie IX, la condamnation solennelle en 1864 de la liberté de conscience, le texte du syllabus qui suit, il faut étudier non seulement les textes précédents, surtout les textes du pape Grégoire XVI, qui va condamner l'amener, et qui condamne déjà les catholiques qui essaient d'amener toutes ces fausses idées dans l'Église, et aussi bien étudier les conséquences avec l'encyclique Testem Benevolentiae, ce qu'on va faire ensemble. Vous voyez, ce sont des choses absolument fondamentales à comprendre. Il y a certains pères qui avaient une autre façon d'expliquer les choses, et j'aime beaucoup cette façon d'expliquer. Ils disaient, quand le bon Dieu nous invite à Cana de Galilée, pour venir prendre un bon repas avec lui, surtout qu'il y a du bon vin, pareil. Tout le monde vient. Si notre Seigneur Jésus-Christ m'invite à Cana de Galilée, je vais faire un petit miracle et changer l'eau en vin, vous allez voir, c'est du bon vin, tout le monde vient. Le problème, c'est quand le bon Dieu nous dit, après avoir bien bu, c'est le Golgotha. Donc, deuxième étape, vous êtes invité au Golgotha. Là, on n'a plus le temps. On trouve des tas d'excuses, on n'a plus monté au Golgotha, précisément parce que on se rend bien compte que le Golgotha, c'est la croix. Et le démon le sait, bien mieux que ça, bien que nous. Il a compris toutes ces choses-là. C'est pour ça que le démon n'a de cesse de supprimer la notion de sacrifice. Et le sacrifice, avec un grand S par excellence, c'est le sacrifice de notre Seigneur. Le plus beau sacrifice, c'est lequel ? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, dans son humanité, accepte de souffrir sur le martyre pendant la Passion et sur la croix. Et comment comment ce sacrifice est-il continué ? Il est continué par la messe, continué sur l'autel. Pour qu'il y ait la messe, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un prêtre. Pour qu'il y ait le prêtre, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'évêque. Il faut l'évêque, le prêtre, la messe, la Sainte Eucharistie. À ce moment-là, on a tout. Vous voyez comme ces choses sont absolument, absolument fondamentales. Si on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Il y a même des pères qui vont plus loin que ça en disant que le chapelet lui-même représente en quelque sorte toute la messe. Ils disent les mystères joyeux correspondent à la première partie de la Sainte Messe, les mystères douloureux, c'est le canon, et les mystères glorieux, c'est la communion. Alors, mes bien chers frères, il faut faire attention, ne pas oublier, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, il dit la fin est première dans l'intention et dernière dans l'exécution. Quelle est la fin de notre vie? Quel est le but de notre vie? Le but de notre vie, c'est le ciel. Donc il faut garder l'idée du ciel constamment dans notre cervelle, dans notre âme. Et pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut évidemment passer par la vie de pénitence. Donc la première étape, c'est la pénitence qui nous amène au ciel. Donc, l'idée du ciel doit être, même si elle est dernière dans l'exécution, si c'est quelque chose qui n'arrivera qu'à la fin de notre vie, il faut passer par les intermédiaires. Pour cela, mes bien chers frères, qu'il faut nous accrocher à la Sainte Messe. Nous accrocher à la Sainte Messe, nous accrocher à l'histoire de l'Église, nous accrocher à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas quelque chose de nouveau, c'est toujours le même. Pourquoi? Parce que le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Et le dépôt de la foi, il ne faut jamais, jamais oublier ça. Ça, c'est quelque chose que les modernes sont incapables de comprendre. Le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. Quand Saint Jean meurt à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, c'est fini. On ne peut plus rien rajouter au dépôt de la foi. Et comment se résume tout le dépôt de la foi? Se résume par la Sainte Messe. Dans la Sainte Messe, vous avez tout. Vous avez la Sainte Trinité, vous avez l'incarnation, vous avez la rédemption. Voilà pourquoi le rosaire est tellement important. Le rosaire, on dit, c'est peut-être le moyen le plus efficace pour lutter contre l'influence du démon, après la Sainte Messe. Il y a la Sainte Messe et le rosaire. Mais le rosaire a une importance toute particulière. Pourquoi? Parce que la Sainte Messe, seul un prêtre peut la célébrer, pas vous. Par contre, le rosaire, tout le monde peut le dire. Même les enfants. Et donc, si vous gardez votre dévotion à la Sainte Vierge Marie, si vous gardez le chapelet tous les jours, vous gardez dans ce qu'on appelle, en langage moderne, la mitraillette à 50 coups contre les démons. Et je vous assure que si le démon prend ses 50 balles, il s'en va en courant. Et il faut comprendre ces choses-là. Priez votre chapelet tous les jours. Sauf si vous êtes mort. Vous êtes mort, vous êtes dispensé. Vous n'êtes pas mort, vous priez votre chapelet tous les jours. Et pour ceux qui ont le temps, personnes qui par exemple, qui sont en âge de retraite, ceux qui ont le temps, priez votre rosaire tous les jours, mais au moins le chapelet. Et le chapelet, encore une fois, ouvre le cœur pour que la très sainte Vierge Marie puisse y rentrer. Elle ne va pas rentrer avec un pied de biche dans la maison si vous fermez la porte à double tour. Pour pouvoir rentrer dans notre cœur, il faut que la porte soit ouverte. Comment on ouvre la porte? Par le chapelet. Vous ouvrez la porte par le chapelet, la Très Sainte Vierge Marie voit que vous l'aimez par la récitation quotidienne du chapelet, et elle vient, vous apporte toutes les grâces dont vous avez besoin. Quand ça m'est arrivé d'avoir des prêtres modernes qui viennent me voir, et il m'est arrivé même de prêcher des retraites à des prêtres comme ça, qui viennent me voir, qui me disent, mais l'abbé, qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais essayer de revenir. Je me suis rendu compte que je suis au fond du gouffre, là. J'ai pratiquement perdu la foi. J'ai perdu la foi, l'espérance, la charité. Je suis rentré dans l'esprit de Vatican II à fond. Qu'est-ce que je dois faire pour revenir? Je donne toujours des conseils. Premier conseil, reprenez la soutane. La soutane vous rappelle qui vous êtes. Deuxième conseil, reprenez votre chapelet. Alors, la soutane, ils se sont du mal parce qu'ils me disent, monsieur l'abbé, si je reprends la soutane, je sais très bien ce qui va se passer, je vais me faire mettre à la porte par mon curé et mon évêque dans les 5 minutes qui suivent. C'est malheureusement ce qui va se passer. Mais par contre, la plupart du temps, en tout cas, c'est comme ça. Par contre, les chapelets peuvent. Et j'ai remarqué que s'ils reprenaient le chapelet, s'ils remettaient le chapelet dans leur vie de tous les jours, la plupart des prêtres modernes, pas tous, mais l'immense majorité des prêtres modernes, se moquent du chapelet. Ils ne veulent plus du chapelet parce qu'ils disent qu'il y a une partie répétitive dans le chapelet, c'est complètement stupide. Si la Très Sainte Vierge Marie nous a donné le chapelet, ce n'est pas pour rien. À chacune de ses grandes apparitions, elle a insisté sur le chapelet. On dit que c'est le bréviaire des laïcs. Pourquoi? Parce que dans le bréviaire du prêtre, que je dis tous les jours, il y a 150 psaumes qu'on dit, on étale sur la semaine. De même, dans le bréviaire des laïcs, c'est-à-dire le rosaire, il y a 150 « Je vous salue Marie ». Donc priez votre chapelet, surtout pendant le mois d'octobre, qui est un mois qui est consacré à la Très Sainte Vierge Marie. Demandez, suppliez à la Très Sainte Vierge Marie de vous donner... Puisqu'elle est l'aqueduc, c'est-à-dire celle qui fait l'union entre le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie, entre l'Église du ciel, l'Église triomphante et l'Église de la terre, l'Église militante, l'aqueduc qui transporte les grâces, c'est notre Sainte Vierge Marie. Donc priez-la, priez votre chapelet tous les jours et si possible, priez en famille. Je peux vous assurer qu'une famille qui prie le chapelet tous les jours sont en général des familles dans lesquelles il n'y a jamais de divorce. Moi, je l'ai vu dans mon sacerdoce. Donc priez votre chapelet tous les jours, suppliez la très sainte Vierge Marie et vous donnez ce courage de se battre. Les choses vont aller de mal en pis, mais il ne faut pas vous faire trop d'illusions. Quand on voit certaines des choses qui se passent aujourd'hui, mais c'est à se taper la tête contre les murs. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette nouvelle loi qui vient de passer en Californie il y a quelques jours, là, la loi qui autorise les enfants à demander un changement de sexe sans l'accord des parents. Et malgré l'opposition des parents, des enfants de 10 ans, vous rendez compte ? On en arrive ? En Allemagne, ils veulent actuellement, les évêques allemands préparent le terrain avec le synode 2023 pour dépénaliser l'avortement, dépénaliser l'homosexualité, accepter l'ordination des femmes. On va où comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait faire pénitence d'une vie entière pour rattraper des horreurs pareilles. En Rome, évidemment, silence. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On se tire une balle dans la tête ? Non, on se met à genoux. On se met à genoux pour faire entrer notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme et le faire entrer par la Sainte Vierge Marie parce que c'est elle qui a la clé. Si la Sainte Vierge Marie est dans notre âme, croyez-moi, le démon, il n'est pas fou. Il ne va pas rentrer dans une âme comme ça. Il commence par regarder par la fenêtre pour voir qui est dedans. S'il voit la Sainte Vierge Marie qui est là, alors là, bien sûr, croyez-moi, il s'en va en courant parce qu'il sait qu'il ne peut pas rentrer dans une âme dans laquelle la Sainte Vierge Marie est vraiment la reine. Que Notre-Dame soit la reine de votre cœur, et si Notre-Dame est la reine de votre cœur, de notre cœur, le Christ-Roi sera par définition le roi de notre intelligence, de notre volonté, de notre mémoire et de notre cœur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.